Pour ceux qui se demandent s'il y a de nouvelles normes qui ont été lancées hier avec les assouplissements qui ont été annoncés par le gouvernement, de tout ce que j'ai pu lire depuis hier après-midi, il n'y a pas grand-chose qui change pour les lieux de culte. Donc le masque est toujours obligatoire. La distanciation maintenant est réduite par contre à 1 mètre. Donc ça permet peut-être d'accueillir un peu plus de gens. Dans une même salle, dans une même salle de culte, on ne peut accueillir que 250 personnes maximum. Et sur l'ensemble d'un bâtiment, on peut aller jusqu'à 500. Donc voilà, donc pas grand-chose de changé pour les lieux de culte pour l'instant. On verra si il y aura d'autres modifications d'ici la fin de l'année. De toute manière, on attend les annonces concernant les festivités de fin d'année pour les regroupements dans les familles. Donc probablement que d'ici là, on aura aussi de nouvelles normes sanitaires pour les lieux de culte. Mais sinon, il n'y a pas grand changement pour nous jusqu'à présent. Bonjour Lucie. Merci Julie. Je savais que ça plairait à bien des gens. Donc voilà. Bonjour Babette, bonjour Andreas. Lynn, bonjour. On t'a salué hier par l'entremise de ta maman. Donc bien heureux que tu sois avec nous ce matin. Que Dieu te bénisse. Alors on va prier et on débute tout de suite. Merci Seigneur pour ce temps que tu nous donnes. Merci pour cette occasion que nous avons de plonger nos regards dans ta parole. Ce matin, Seigneur, nous avons faim et nous avons soif de toi. Faim et soif de la parole qui sort de ta bouche, de cette nourriture spirituelle que tu as préparée de toute éternité pour nous et que tu nous sers ce matin. On te demande, Seigneur, de nous instruire. On te demande d'ouvrir notre entendement, d'ouvrir notre capacité à saisir ta parole et de permettre, Seigneur, que celle-ci trouve un emplacement tout approprié dans notre cœur, dans notre âme, dans notre esprit, qu'elle soit arrosée par ton onction et qu'elle puisse croître jusqu'à porter un fruit qui te sera agréable jusque dans l'éternité. Alors je bénis ma sœur, je bénis mon frère et en toute chose que ton nom soit élevé, nous avons prié dans ce glorieux et merveilleux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors, on ouvre nos Bibles, comme on l'a annoncé tout à l'heure, dans 2 Corinthiens au chapitre 5, et les versets qui nous servent de réflexion cette semaine sont les versets 9 à 11, bien que ce matin, au moins pour la première partie, on va aussi expliquer les 8 premiers versets de ce passage. Alors, la parole de Dieu nous dit, 2 Corinthiens 5, le verset 9, c'est pour cela aussi que nous nous efforçons de lui être agréable, soit que nous demeurions dans ce corps, soit que nous le quittions. Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait, étant dans son corps. Connaissant donc la crainte du Seigneur, nous cherchons à convaincre les hommes. Dieu nous connaît, et j'espère que dans vos consciences, vous nous connaissez aussi. Alors je répète le verset 9. C'est pour cela aussi que nous nous efforçons de lui être agréable, soit que nous demeurions dans ce corps, soit que nous le quittions. Je répète une dernière fois. C'est pour cela aussi que nous nous efforçons de lui être agréable, soit que nous demeurions dans ce corps, soit que nous le quittions. Alors que le Seigneur puisse bénir donc cette parole de ce matin. Comme on l'a dit, on approfondit cette semaine l'enseignement que le pasteur André nous a donné dimanche. Le titre de l'enseignement, et c'est le titre pour cette semaine, c'est le jugement. Et pas le jugement, ou pas n'importe quel jugement, dirais-je plutôt. C'est pas le jugement des non-croyants. Ce n'est pas le jugement qui fait que nous sommes sauvés ou nous allons en enfer. Non. Là, on parle du tribunal de Christ, tel que le verset 10 le mentionne. Et ici, c'est un jugement qui est apporté sur tous les croyants, sur tous les chrétiens, sur tous ceux qui auront été sauvés. Donc, même si nous sommes assurés de notre salut parce qu'on s'est repenti, parce qu'on a proclamé et reconnu Jésus comme le Seigneur et le Maître de notre vie, et même si on a mené par la suite donc une vie qui lui est agréable, on va tous passer devant un jugement lorsqu'on va rentrer dans l'éternité. Et ce jugement-là est afin de reconnaître les œuvres de tout un chacun, les œuvres de chaque croyant, et selon les œuvres que le croyant aura accomplies, comme on l'a vu il y a déjà quelques semaines, on aura des couronnes qui nous seront attribuées. Alors pour certains qui auront fait beaucoup, qui auront travaillé adéquatement pour Dieu, il y aura effectivement des couronnes bien glorieuses qui seront accordées. Pour d'autres, la Bible nous dit qu'ils passeront par, ils seront sauvés comme par le feu, et que bon, ben, ils seront sauvés, mais il n'y aura pas de couronne à leur égard. Et ça serait malheureux de se dire parce que je suis sauvé, ben ça m'est suffisant, en sachant que le Dieu de toute éternité, le Roi des rois et le Seigneur des seigneurs, tient à récompenser ses ouvriers, tient à récompenser ses enfants, et de dire je vais me priver de ces couronnes et de cet honneur que Dieu veut me rendre alors qu'il n'est en aucun cas tenu de le faire, rejeter cette possibilité d'être honoré par Dieu, d'être récompensé par Dieu, en disant mais moi je, la seule chose qui compte pour moi, c'est tout simplement le salut. Alors oui, on parle d'un jugement que toi et moi, même croyants, même sauvés, nous aurons à confronter. Un jugement qui viendra récompenser, si tel est le cas, les œuvres que nous aurons posées à l'égard du Seigneur. Je répète le verset 9, c'est pour cela aussi que nous nous efforçons de lui être agréable, soit que nous demeurions dans ce corps, soit que nous le quittions. La première phrase nous dit, le premier groupe nominal nous dit, c'est pour cela aussi. Et en grec, puisqu'on est dans le Nouveau Testament et que le Nouveau Testament a été d'abord écrit en grec, cette formulation, c'est pour cela aussi, c'est un seul mot. En grec, c'est le mot dio, D-I-O, pour ceux qui prennent des notes, et je sais que vous êtes plusieurs à le faire régulièrement. Donc dio qui veut dire prenant en compte ou en raison de. Et voilà pourquoi je disais tout à l'heure qu'on serait obligé d'expliquer malgré tout les 8 premiers versets. Bien qu'on ne va pas le lire, vous pourrez le lire tout à l'heure après qu'on aura terminé ou dans vos temps libres. Mais si vous regardez 2 Corinthiens au chapitre 5 du verset 1 à 8, donc le passage qui précède celui qu'on a lu tout à l'heure, on se rend compte qu'on parle de notre arrivée dans l'éternité et de notre assurance de la vie éternelle et des récompenses qui nous attendent dans l'éternité. Et Paul va donc dire à l'église de Corinthe, en raison de ce que je viens de dire, en raison de ce qui nous attend comme passage dans l'éternité et comme destinée éternelle du croyant, alors en raison de cela, on devrait s'efforcer pour lui être agréable. C'est souvent une technique d'enseignement que Paul va utiliser. Il va mentionner un fait, il va expliquer un fait, et par la suite, il va dire en raison de ce fait, alors voici quel devrait être le comportement, quelle devrait être l'attitude, quelle devrait être la vie du croyant. Et Paul dit ici, donc, puisque vous allez être bénis avec une vie éternelle dans la présence ineffable de Dieu, de votre Seigneur, de votre Sauveur, alors par conséquent, la vie qu'on mène ici-bas et ce qui nous mène jusqu'à la vie éternelle ou le temps qui nous mène à la vie éternelle devrait être vécu d'une certaine manière. Et il dit, voilà pourquoi ou c'est aussi pour cela que nous nous efforçons. Le terme efforcer, c'est le terme philotimeomai. Philotimeomai. Donc P-H-I-L-O-T-I-M-E-O-M-A-I. Je répète, philotimeomai. P-H-I-L-O-T-I-M-E-O-M-A-I. Toujours ceux qui nous visitent pour la première fois ou pour une des premières fois, on épelle les mots parce que certains prennent des notes de nos enseignements quotidiens. Donc, efforcer, philotimeomai, veut dire travailler avec ardeur. Il y a des croyants qui viennent à Jésus, il y a des chrétiens qui confessent Jésus comme leur Seigneur, et ils oublient cette notion qu'on a vue régulièrement lors de nos bénédictions matinales depuis maintenant 18 mois. Ils oublient la question du travail, du fait que lorsqu'on vient à Jésus, nous devenons serviteurs de Dieu. Et un serviteur ne peut pas être considéré comme un serviteur s'il ne sert pas. Je sais que c'est redondant, mais c'est pour que vous compreniez bien. Et rappelons-nous aussi ce qu'on a vu à plusieurs reprises, les salutations qui vont nous être faites lorsque nous allons passer dans l'éternité, lorsque nous allons entrer dans l'éternité avec l'approbation de Dieu. On nous attend, et lors de notre passage, qu'est-ce qu'on attend comme mention? C'est Jésus qui nous dit « Bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. » Bon et fidèle serviteur, donc quelqu'un qui aura travaillé, bon, donc il aura fait un bon travail, fidèle, donc ce travail aura perduré dans le temps. Alors il est important de travailler avec ardeur et de travailler sur le long terme avec pérennité, dirons-nous. Mais ce qui est intéressant dans philotimeomai, c'est qu'il y a aussi des connotations qui sont rattachées à ce mot. Lorsqu'on utilise ce terme, ou lorsqu'on utilisait ce terme dans le grec antique, on parlait non seulement de travailler avec ardeur, mais de travailler avec ardeur en l'honneur de quelqu'un ou en l'honneur d'une chose. Et bien entendu, puisque nous travaillons dans notre cas pour le Seigneur, ça veut dire de travailler en l'honneur du Seigneur. Ça veut dire que je regarde ce que Christ a fait pour moi, je regarde la destinée qui est la mienne, la destinée éternelle qui m'est annoncée, et en l'honneur de cette destinée, en l'honneur de celui qui me donne cette destinée, en l'honneur de comment il a été à même de me donner cette destinée éternelle, et c'est à travers la mort et la résurrection de Jésus. Donc, pour honorer tout cela, je travaille avec ardeur. Donc, travailler avec ardeur en l'honneur de Jésus, travailler avec ardeur aussi par amour envers Jésus. Philotimeomai va nous parler non seulement du travail qu'on fait en l'honneur de Dieu, mais aussi par amour. Il y a certaines personnes qui veulent honorer, mais qui n'ont pas cette passion même envers Jésus. Et parfois, effectivement, on veut juste rendre grâce, on veut juste féliciter, on veut juste rendre un certain honneur à quelqu'un, mais ça ne veut pas pour autant dire qu'on est passionné de cette personne. Alors que lorsqu'on parle de Jésus et lorsqu'on parle du travail qu'on doit effectuer pour lui et des efforts qu'on fournit pour lui, ces efforts sont fournis non seulement parce que je veux l'honorer, mais aussi parce que je suis passionné de lui. Et là, ça soulève la question à savoir quels sont les sentiments qui t'habitent aujourd'hui envers Dieu. Peux-tu dire effectivement que tu es passionné de Jésus? Ou tout simplement que, ouais, bon, à l'occasion, j'y pense. Et bien entendu, dans « à l'occasion, j'y pense », ça ne fait pas une relation très forte avec Dieu. Notre relation avec Jésus devrait être effectivement une relation de passion envers notre Seigneur. Et notre travail à son égard devrait être teinté de cette passion même qui doit nous habiter. Lorsqu'on parle de travailler ou de s'efforcer, philotimeomai, on va parler aussi de travailler avec l'ambition d'une chose. Paul va dire à un moment donné qu'il court, mais non pas comme à l'aventure. Il frappe, mais non pas dans le vide. Il est en train de dire, moi, je cours pour un but. Et il va dire clairement, je cours pour la couronne, je cours pour remporter la course. Donc, nous devons travailler avec l'ambition, non pas l'ambition simplement de compléter la course, mais avec l'ambition de compléter la course avec brio. Un athlète qui va aux Jeux olympiques ne veut pas simplement que participer, même si il existe des vœux qu'on prononce, des engagements qu'on prononce ou des serments qu'on prend lorsqu'on joue, lorsqu'on est aux Jeux olympiques et qui disent qu'effectivement l'important c'est pratiquement juste de participer, mais aucun athlète digne de ce nom ne veut aller aux Jeux olympiques simplement que pour participer. Il veut, ne serait-ce qu'aux Jeux olympiques, qu'il puisse atteindre sa meilleure performance à vie, sa meilleure performance personnelle. Voilà pourquoi régulièrement, lorsqu'on a des entrevues après une course, après une épreuve olympique, même si la personne n'a pas remporté son épreuve, elle va dire « mais je suis content parce que j'ai battu mon record personnel ». C'était à la scène ou sur la scène des Jeux olympiques que je voulais battre mon record personnel. Je ne suis peut-être pas en mesure de remporter la médaille d'or, mais je voulais offrir le meilleur de moi-même durant cette course. Alors, lorsqu'on travaille pour le Seigneur, on travaille aussi avec l'ambition de faire de notre vie le meilleur qui soit. Et le meilleur pour notre vie n'est pas le meilleur de ce que toi tu es capable. Ce n'est pas le meilleur de ce que tu penses qui peut être le meilleur pour toi. Ce n'est pas le meilleur que tu penses être en te comparant avec ceux qui t'entourent. Non, faire le meilleur de notre vie, c'est accomplir dans notre vie ou par notre vie ce que notre Créateur nous a appelé à faire et ce pourquoi il nous a créé. Je parlais notamment lundi à la conférence lorsque j'expliquais ce qu'est la foi et j'expliquais aux gens à un moment donné que la foi pour un chrétien, c'est aussi de savoir que Dieu nous a créé avec un propos et que ce propos se doit d'être accompli de par notre vivant ou durant notre vivant, qu'il n'y a pas une vie qui est tout simplement le fruit du hasard. Dieu a un dessein, Dieu a un objectif, Dieu a un but avec l'existence de chacun d'entre nous. Et le seul moyen de remplir pleinement cet exercice, c'est d'être à l'écoute de la voix de Dieu et de lui permettre d'accomplir à travers nous le plan initial qu'il avait lorsqu'il pensait à nous de toute éternité, en sachant que tel jour, de tel mois, de telle année, nous allions voir le jour. Dieu attendait ce moment parce qu'il avait un plan pour toi et il avait un plan pour moi. Et notre ambition, donc on devrait travailler avec ardeur, et l'ambition qui doit s'emparer de nous, c'est non seulement la récompense éternelle, mais aussi d'avoir accompli ce que Dieu voulait que nous accomplissions de notre vivant. Et nous, quand on parle de philotimiomai, comme dernier point quant à travailler avec ardeur pour atteindre l'objectif. Pour atteindre l'objectif. C'est un peu le même sentiment que je disais tout à l'heure, Dieu a un plan pour nous. Il y a des gens qui prennent leur vie et qui la dépensent à tout un tas de choses, sans se poser la question, mais pourquoi ai-je été créé? Pourquoi Dieu voulait-il que je voie le jour? Quel était le plan de Dieu pour ma vie? Et lorsqu'on arrive dans les derniers moments de notre existence, plusieurs vont se poser la question à savoir, mais de tout mon passage ici-bas sur terre, de tout ce temps qui m'a été donné de vivre ici-bas sur terre, ai-je, oui ou non, fait ce que je devais faire? Ai-je rempli mon mandat ou ne l'ai-je pas rempli? Encore là, si je reviens sur la maladie qui m'a affecté, j'explique souvent aux gens que la chose qui m'est restée le plus marquée en moi, c'est qu'aujourd'hui, parce que j'ai été confronté à la mort, parce que j'ai été confronté à la fragilité, entre guillemets, de la vie, au fait qu'on n'est pas maître de notre vie pour les 10, 15, 30, 50 prochaines années. Aucun d'entre nous ne sait combien de temps il a devant lui. Alors, mon objectif à moi, il est quotidien. À la fin de cette journée, je me pose la question à savoir, ai-je accompli ce que je devais accomplir aujourd'hui? Voilà pourquoi quand je prêche, je dis parfois, si c'était ma dernière prédication, je serais satisfait d'avoir donné au peuple ce que Dieu voulait que je donne. Quand je rencontre des gens pour une conférence ou pour un témoignage ou autre, l'important pour moi, c'est d'arriver le soir venu de me coucher et de regarder vers le ciel et de dire, Seigneur, j'ai fait ce que je crois que je devais faire aujourd'hui. J'ai accompli, Seigneur, ce que je pense que tu voulais que j'accomplisse aujourd'hui. Prépare-moi déjà pour la journée de demain, parce que demain, si tu me prêtes vie, tu as encore d'autres choses à accomplir à travers moi. Donc, travailler avec ardeur pour le Seigneur, en l'honneur du Seigneur, par amour envers le Seigneur, avec l'ambition d'accomplir ce que Dieu voulait que j'accomplisse, et avec l'objectif défini de remplir ce mandat. Et là, il nous dit, afin que nous nous efforçons de lui être agréable. Le terme agréable, on l'a vu à plusieurs reprises dans nos études. Euarestos, donc E-U-A-R-E-S-T-O-S, agréable, Euarestos, E-A-U-R-E-S-T-O-S, qui veut dire trois choses. Donc, agréable à Dieu veut dire acceptable à Dieu. Donc, ce que tu fais pour Dieu, la vie que tu mènes, est-elle acceptable aux yeux de Dieu? Et je ne parle pas acceptable aux yeux des gens. Je ne parle pas quelle est l'opinion de la société par rapport à la vie que tu mènes. Je parle lorsque Dieu te regarde. Est-il satisfait de ce qu'il voit ou n'est-il pas satisfait? Est-ce que c'est acceptable? Est-ce que Dieu peut dire oui, je bénis ceci ou non, je ne le bénis pas? Être acceptable, ça veut dire être sujet à l'approbation de Dieu. Dieu peut-il approuver ta vie? Donc, premier terme pour agréable, est-ce que je suis acceptable? Est-ce que Dieu peut approuver ma vie? Deuxièmement, agréable veut dire aussi plaisant. Alors, lorsque Dieu me regarde, est-ce qu'il prend plaisir à me voir aller? Prend-il plaisir à la marche chrétienne que j'ai? Prend-il plaisir à la vie que je mène? Prend-il plaisir aux décisions que je prends? Prend-il plaisir au mode de vie qui est le mien? C'est important à savoir et à se poser la question, suis-je acceptable? Et de surcroît à cela, au-delà d'être acceptable, est-ce que je suis plaisant à Dieu? Est-ce que je fais plaisir à Dieu par ce que je suis, par la vie que je mène? Et enfin, est-ce que je suis satisfaisant? Est-ce que je remplis ce que Dieu veut que je remplisse? Vous savez, lorsque vous achetez un sac de chips, un sac de croustilles, plusieurs vont dire, ouais, ils écrivent un chiffre de poids à l'intérieur et quand on ouvre, maintenant, c'est rempli d'air. Et certains ont le sentiment de se faire voler à chaque fois qu'ils achètent un sac de chips parce que il y a moins de croustilles qui ne l'espéraient. Ça, c'est parce qu'on a une attente par rapport au sac de chips. On a une attente que lorsque je vais l'ouvrir, je vais avoir une quantité suffisante pour ce que j'ai envie de manger. Lorsque le Seigneur nous regarde, il a aussi des envies par rapport à nous. Le Seigneur a aussi des ambitions par rapport à nous. Le Seigneur a aussi des attentes par rapport à nous. Alors, je peux être en train de faire ce que Dieu veut. Je peux être même agréable à Dieu dans ce que je fais. Je peux être plaisant à Dieu dans ce que je fais. Mais la question, la quantité que tu fais, est-elle satisfaisante pour Dieu? Il y a des gens qui servent Dieu de façon ponctuelle. Alors aujourd'hui, j'ai fait ma bonne action de l'année, j'ai servi Dieu. Mais les 364 autres jours qui restent, tu fais quoi? Tu es satisfait d'avoir consacré une journée au Seigneur? D'autres vont dire, bon, je suis allé à l'église dimanche, c'est suffisant. Ça veut dire que tu es allé voir le Seigneur dimanche pendant environ 2 heures. Et après ça, le restant de la semaine, il s'est passé quoi? Dieu n'entend plus parler de toi? Peut-il être satisfait de ce genre de communion avec toi? Donc, lui être agréable, c'est le être acceptable. pouvoir être approuvé de Dieu, pouvoir recevoir le sceau d'approbation de Dieu, pouvoir lui être plaisant, que notre vie donne du plaisir au Seigneur, et de surcroît à cela, puisque nous puissions être satisfaisants, donc que nous puissions remplir les attentes que Dieu a envers nous. Et certains vont dire, ouais, mais peut-être que ces attentes sont trop grandes. Ces attentes ne sont jamais trop grandes. Lorsqu'on nous parle de la parabole des talents, la Bible nous dit qu'à chacun, le maître a donné selon ses capacités. À celui qui pouvait produire 10 talents, il en a donné 5. À celui qui pouvait en produire 4, il en a donné 2. À celui qui pouvait en produire 2, il en a donné 1. En sachant, oui, ce seul talent que tu as, tu es quand même capable de le doubler. Donc, pour chacun d'entre nous, les talents, les capacités, les attentes de Dieu sont liées avec des choses tout à fait logiques et non pas superflues et non pas outrepassant nos capacités. On nous dit par la suite dans le verset, c'est pour cela aussi que nous nous efforçons de lui être agréable, soit que nous demeurions dans notre corps, soit que nous le quittions. Soit que nous demeurions dans notre corps, soit que nous le quittions. Demeurer dans son corps, dans l'étymologie grecque, c'est encore un seul mot, qui se dit endemeo, endemeo, E-N-D-E-M-E-O. Je répète, endemeo, E-N-D-E-M-E-O. Et ici, dans endemeo, on parle, oui, effectivement, le fait de rester en vie, de continuer à vivre, ou le fait de vivre dans ce monde. Oui, c'est une notion qui est claire dans ce terme-là. Donc ici, on va mettre en contrepartie ce qu'on fait de notre vivant versus ce qui sera fait si nous ne sommes plus vivants. Mais ça va plus loin que ça. Endemeo va aussi parler du fait d'être à la maison, du fait d'être parmi les siens et du fait d'être dans son pays. Alors, je pense qu'ici, non seulement Paul va parler de cette pensée de ce que nous faisons dans notre vivant, mais va parler aussi de ce que nous faisons dans notre chez nous, dans notre foyer, donc dans notre cercle rapproché, mais aussi dans le cercle un peu plus étendu qu'on appelle notre patrimoine, notre lieu de vie, notre population, nos semblables. Donc, dans ce cercle un peu plus étendu qu'on appelle malgré tout chez nous. Alors, qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on est dans ce cercle qui nous ressemble, dans cet environnement auquel on est habitué? Est-ce que alors que nous travaillons dans un cercle rapproché où les gens ont la même pensée que nous, où les gens ont le même vécu que nous, où les gens ont les mêmes cultures que nous, est-ce que dans ce cercle-là qui nous est le plus familier, est-ce qu'effectivement on est acceptable, donc approuvé? Est-ce qu'on est plaisant, donc suscitant du plaisir à Dieu? Est-ce qu'on est satisfaisant? Est-ce qu'on rapporte à Dieu les attentes qu'il avait envers nous lorsqu'on est dans ce milieu de vie auquel on est habitué? Et lorsqu'on parle du terme quitter ce corps, donc la fin de la phrase qui dit soit que nous demeurions dans ce corps, soit que nous le quittions, on parle effectivement, je travaille pour Dieu, peu importe qu'il me reste beaucoup de temps ou qu'il m'en reste peu. Certaines personnes vont travailler davantage lorsqu'ils savent qu'il leur reste quelques mois, vont avoir un regain pour la foi et pour Christ dans les derniers mois. Et ce n'est pas un mal en soi, c'est être conscient qu'il nous reste peu de temps et que, assurément, si je dois finir dans un peu de temps, je vais m'assurer de bien terminer. La Bible nous dit que la fin d'une chose est plus importante que le début. Alors, s'améliorer, ne serait-ce que dans les derniers temps, c'est tout à fait parfait. Et on le voit même au début de l'histoire chrétienne, puisque ce brigand sur la croix, qui a été brigand et condamné à juste titre à mourir sur la croix à côté de Jésus, va protéger Jésus des attaques et puis du verbiage de l'autre brigand. Et Jésus va lui dire que ben, ce soir, tu vas être avec moi dans le ciel. Je t'amène avec moi. Donc, les quelques secondes, quelques minutes, quelques heures qu'il a passées en fin de vie à côté de Jésus a permis à ce que cet homme soit effectivement dans la présence de Dieu pour l'éternité. Donc, oui, il y a cette question de faire ce qui est important dans le peu de temps ou dans le restant du temps que nous avons devant nous. Mais de surcroît à cela, si Endemo voulait parler de ce qui était habituel, familier, coutumier pour nous, le terme « quitter ce corps » ekdemeo, donc « E-K-D-E-M-E-O »,« ekdemeo », va vouloir aussi nous dire « aller vivre à l'étranger ». Ekdemeo, c'était de déménager à l'extérieur de ce qui nous était habituel. Et en tant qu'enfant de Dieu, on doit donc comprendre. Certains vont se limiter à vivre leur foi au sein de l'Église. Et il y a un jugement qui est porté sur ce qu'on fait au sein du corps de Christ. Mais il y a aussi un jugement qui va être porté de ce que nous faisons à l'extérieur du corps de Christ, à l'extérieur de ce milieu familier que nous avons. Comment suis-je un représentant de Dieu dans le monde? Comment suis-je un représentant de Dieu à l'extérieur des pourtours de l'Église dans lequel il est normal et facile d'élever la voix et de dire « Amen ». Il est normal et facile de dire que je suis chrétien. Il est normal et facile de vivre comme un chrétien à l'intérieur des murs de l'Église. Comment est mon comportement lorsque je suis sorti à l'extérieur, lorsque je vais vers, entre guillemets, l'étranger? Quand je vais vers ce qui n'est pas mien, comment je me comporte? Est-ce qu'encore là, je suis acceptable, donc pouvant être approuvé par Dieu? Est-ce que je suis plaisant, donc suscitant du plaisir à Dieu? Est-ce que je suis satisfaisant, comme remplissant les attentes que Dieu avait envers moi? Et je pense que c'est ces trois termes-là qui sont importants pour nous. Oui, il y a la question de travailler en l'honneur de Dieu, de travailler par amour pour Dieu, de travailler avec l'ambition de ce qui nous est destiné, de remplir aussi avec l'ambition de remplir l'objectif que Dieu avait avec notre création. Mais de surcroît à cela, dans tout ce que je fais, dans le travail, dans le service que j'offre à Dieu, est-ce que je continue à lui être acceptable, approuvable? Est-ce que Dieu peut approuver ce que je fais? Est-ce que Dieu peut prendre plaisir en ce que je fais? Est-ce que Dieu peut être satisfait par ce que je fais? Alors, s'il te demande d'être approuvable ou acceptable, s'il te demande d'être plaisant, s'il te demande d'être satisfaisant, c'est que oui, tu peux être approuvé par Dieu. Oui, tu peux être plaisant à Dieu. Et oui, tu peux satisfaire les attentes de Dieu. Ce n'est ni ton père, ni ta mère, ni les circonstances de la vie, ni le diable lui-même qui peut t'empêcher de remplir la volonté de Dieu. Le seul qui peut t'empêcher de remplir la volonté de Dieu et le plan de Dieu, c'est celui que tu regardes matin après matin lorsque tu vas te brosser les dents devant le miroir. C'est lui, c'est toi qui peut tout simplement t'empêcher de remplir. En même temps, le seul qui peut s'assurer que tu remplisses le plan de Dieu, c'est aussi toi. C'est une décision que tu as. Aujourd'hui, serais-je agréable aux yeux de Dieu? Donc, aujourd'hui, vais-je faire ce qui est approuvé de Dieu? Vais-je faire ce qui est plaisant pour Dieu? Et enfin, vais-je faire ce qui est satisfaisant? Lorsque Dieu dressera le bilan de ma journée, sera-t-il satisfait de mon rendement? Mon rendement au sein du corps de Christ, endemo, dans ce corps, ou satisfaisant dans ce que je fais à l'extérieur de ce corps, à l'extérieur du corps de Christ, ce que je fais donc dans le monde? Suis-je satisfaisant? Suis-je plaisant? suis-je agréable, approuvable de Dieu? Alors voilà ce que nous avions pour ce matin. Merci Seigneur pour ta parole, merci pour ce moment d'étude, merci pour ce questionnement dans lequel tu nous lances. Oui Seigneur, on a un jugement qui va être donné sur nos vies, un jugement, le tribunal de Christ, où tout croyant doit passer. On sait que le salut, c'est autre chose, mais une fois sauvés, oui, nous aurons des récompenses, et les récompenses ne sont données que sur le rendement de notre travail. Avons-nous fait ce que nous devions faire? L'avons-nous fait avec l'attitude qui se devait? L'avons-nous fait avec l'ardeur qui se devait? L'avons-nous fait avec les motivations qui se devaient? L'avons-nous fait avec l'amour, la passion qui se devait? Est-ce que notre travail aura été approuvé par toi? Peut-il être approuvé par toi? Est-ce que notre travail aura été plaisant pour toi? Est-ce que notre travail aura été satisfaisant pour toi? Parle à ta fille, parle à ton fils, parle-moi aussi, Seigneur, sur ma propre condition, sur mon propre travail, que je fais au sein de l'Église, mais celui que je fais aussi à l'extérieur, que celui que je fais dans le corps de Christ, comme celui que je fais à l'extérieur du corps de Christ. Bénis cette parole, enrichis-nous, Seigneur, par l'onction de ton esprit, et permets-nous d'être trouvés agréables, nous aussi, à tes yeux. Nous t'avons prié dans le glorieux, merveilleux et précieux nom de Jésus, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Alors voilà ce que nous avions pour ce matin. On vous rappelle deux choses importantes ce soir pour ceux qui voudraient être à l'église. Ce n'est pas obligé d'avoir d'inscription le mercredi. Donc, vous pouvez être là en présentiel le mercredi soir pour l'étude biblique. Sinon, on sera bien entendu en onde dès 19h. De surcroît à cela, les inscriptions pour l'assemblée de dimanche ont cours. Donc, vous pouvez nous appeler au bureau ou nous écrire par courriel. Vous savez assurément comment trouver ces adresses sur la page web de l'Église. Je vous rappelle juste au cas, la page web, la page internet de l'Église, c'est www.eajc.ca. Donc, vous allez là, vous allez trouver notre numéro de téléphone, vous allez trouver aussi l'adresse courriel de l'Église pour vous inscrire pour l'Assemblée de dimanche si vous voulez y prendre part en présentiel. Sinon, bien entendu, on sera encore une fois sur nos réseaux, sur toutes les plateformes informatiques qu'on a. Alors sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Assurez-vous d'être agréable, donc approuvé de Dieu, plaisant à Dieu et satisfaisant pour Dieu. Que Dieu vous bénisse. Bonne journée à tous.